toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Les indices s'accumulent. Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max pourraient sortir dans les prochaines semaines, voire les prochains jours. On s'attend à des machines essentiellement plus puissantes, mais des surprises ne sont pas à exclure. Alors simple speed bump ou grosse évolution, on va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler d'iOS 26 qui fait ami-ami avec les montres tierces, d'un sérieux incident provoqué par une Apple Watch et de Xcode qui se met pleinement à l'IA. Nous sommes le samedi 7 février, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'est déjà les vacances ! Enfin, ici à Lyon dans la zone A, et pour les enfants en particulier parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas chômer ces deux prochaines semaines. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, ça va très bien et toi ?
Ça va bien, ouais. T'as pas prévu de partir en vacances prochainement ?
Non, Tim Cook nous l'a interdit. Il nous a même dit « Attention, si vous partez en vacances le 19 février, il y a peut-être l'iPhone 17e, ce serait dommage de rater ça. » Donc, s'il y a ça, s'il y a le MacBook Pro et deux, trois autres choses. Ah non, on va rester fidèle au poste, comme toujours. Dis-moi, moi j'ai aussi une petite question.
Oui.
Alors, je veux pas dévoiler ta vie privée, mais je crois que tu vas déménager cette année. Est-ce que tu as besoin d'un architecte d'intérieur ?
Ah, ça peut être utile, oui. T'as une idée derrière la tête ?
Oui, bien sûr. Est-ce que tu as vu ce YouTuber espagnol qui a fait son studio à l'image d'un Apple Store ? Ça te dirait d'avoir un Genius Bar chez toi ? Ça serait classe.
Alors, j'ai regardé sa vidéo, j'ai pas du tout aimé ce qu'il a fait. En fait, il dit que ça ressemble à un Apple Store, mais c'est pas tellement. Enfin, c'est trop blanc, quoi. Maintenant, les Apple Store sont quand même un peu plus chaleureux. T'as du bois, t'as même des arbres au milieu des allées. Donc, c'est plus un Apple Store comme ça, moderne, oui. Mais son studio tout blanc, c'est un peu trop clinique, je trouve.
Et niveau ménage, c'est peut-être ça peut être vite compliqué.
Ouais. Alors, j'en parlais en intro, tout porte à croire que les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max sont sur le point de sortir. Alors, aucun YouTuber russe n'a encore fait de déballage, mais les indices se multiplient bien. Les stocks de M4 Pro et M4 Max sont très faibles. Si vous passez commande sur l'Apple Store aujourd'hui, les livraisons n'ont pas lieu avant mi-février, voire avant mars, ce qui est assez suspect. Et puis, outre les rumeurs venant de Mark Gurman, des références ont été trouvées dans macOS 26.3. Cette mise à jour est actuellement en release candidate et elle devrait être distribuée en version finale sans doute la semaine prochaine. Christophe, on se doute que ces MacBook Pro seront plus puissants que les modèles actuels, mais est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres changements également ?
Alors, c'est surtout ce qu'on appelle un speed bump, mais c'est un speed bump qui pourrait être plus intéressant que d'habitude. Alors d'abord, il faut peut-être revenir sur ce MacBook Pro M5 14 pouces, donc le modèle standard que tout le monde ignore, alors que c'est une machine qui a de réelles qualités. Non, mais c'est vrai, on l'a vu, on fait de temps en temps des plans promo parce que Apple fait des fois des réductions assez intéressantes. Mmh. Et ouais, les gens regardent ça. Mais c'est une machine qui est compliquée entre dans un sens, il y a le MacBook Air qui est juste en dessous et qui est très bien pour la majorité des gens. Et puis alors, les gens qui veulent vraiment de la puissance, c'est pas le MacBook Pro M5 qui les intéresse, il faut au moins la puce M5 M Pro. Ceci dit, bon, alors, on peut voir ce MacBook Pro M5, c'est un sort d'apéritif, et ça nous donne l'idée des progrès qu'on va voir sur les vrais MacBook Pro M5. Donc, il y aura des progrès qui seront particulièrement perceptibles au niveau du GPU par rapport à tout ce qui est au traitement de l'intelligence artificielle. Il y aura sans doute le passage au PCI Express 5 qui va permettre de doubler notamment les débits avec le SSD. Donc, voilà. Là, on parle effectivement de spin bump. On prend un peu tous les éléments du Mac et ça va un peu plus vite. Ceci dit, il y a une vraie nouveauté et c'est là où je pense qu'il faut faire une vraie césure avec d'un côté le M5 et après les autres puces, c'est que ce sera pas la même méthode de fabrication du processeur. Là, on va se retrouver avec pour la première fois des socs qui seront faits sur mesure à la carte. D'habitude, c'était une sorte de bloc monolithique et là, on va pouvoir avec les nouveaux process de TSMC, vraiment faire un processeur à la carte, c'est-à-dire on pourra Ça reste à voir si Apple le fait, va vraiment le faire. Mais théoriquement, on pourrait imaginer, par exemple, se concocter un M5 Ultra qui est très fort au niveau du GPU, ou à l'inverse, avec beaucoup de CPU et assez peu de GPU. Donc vraiment faire ça quelque chose maison. Donc ça pourrait être intéressant pour les professionnels qui ont des activités où on sait que là, c'est vraiment le processeur qui est important, ou le GPU. D'ailleurs, enfin, on l'a tous remarqué, Apple a changé la façon dont elle vend ses Macintosh, ses Mac sur l'Apple Store. Désormais, l'achat d'un Mac ressemble furieusement à la manière dont on achète un iPhone ou un iPad. Alors, c'est un détail, mais on peut aller beaucoup plus loin dans les détails. Alors, est-ce que c'est annonciateur de cela? C'est-à-dire qu'on aura, par exemple, au lieu d'avoir deux ou trois choix de CPU à l'heure actuelle, est-ce qu'on aura peut-être 6, 7, 8 pour avoir vraiment un Mac sur mesure?
Alors, il faut beaucoup de clics d'ailleurs.
C'est pas forcément une avancée.
Demande beaucoup de clics.
Et cette nouveauté me fait un petit peu peur parce que très franchement, je pense que pour des utilisateurs, ce sera quelque chose qui sera vraiment intéressant. Mais pour la grande majorité des utilisateurs, je suis pas sûr que ça apporte des changements significatifs. Il y a des gens qui vont dire, je veux une puce équilibrée avec beaucoup de GPU, avec beaucoup de CPU, mais j'ai pas forcément des besoins trop spécifiques à ce niveau-là. Donc ce sera quelque chose à voir. Donc comme tu l'as dit, la sortie semble corrélée avec macOS 26.3.
Ouais.
Donc tout laisse à penser que les vacances de février vont être particulièrement courtes chez Apple.
Ouais, donc tu en as parlé, macOS 26.3 s'apprête à sortir en version finale. C'est également le cas d'iOS 26.3, logiquement. Cette mise à jour donc comprend assez peu de nouveautés, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante, puisqu'on pourra associer de manière plus étroite une montre d'une marque tierce, par exemple une Garmin, avec son iPhone. Alors on pouvait bien sûr déjà connecter une montre en Bluetooth avec son iPhone, mais là l'intégration, elle pourra aller plus loin. Et c'est pas Apple qui a décidé de son propre chef de faire une fleur aux concurrentes de l'Apple Watch. C'est un changement qui a été poussé par l'Union européenne dans le cadre du DMA. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les montres tierces, Christophe ?
L'utilisation d'une montre tierce avec iOS sera bien plus fluide à condition que les constructeurs fassent le nécessaire. C'est déjà donc le cas de Garmin qui a fait le travail. Alors j'avais testé, je vais donner un exemple personnel. J'avais testé pendant un mois le fameux bracelet Whoop. C'était décembre 2023. Et ce qui était très très frustrant, c'est que la synchronisation des données se faisait uniquement au moment où on lançait l'application. Donc ça prenait déjà pas mal de temps. Et en plus, le Whoop de mémoire, les données étaient traitées par un serveur. Donc, tu voulais accéder à tes données et tu perdais un temps fou pour avoir une idée de ces données-là. Et donc là, justement, avec ce que Garmin a inauguré et déjà iOS 26.2, le gros changement, c'est la manière dont les données sont envoyées en tâche de fond de la montre vers l'iPhone. Donc là, c'est un peu comme l'Apple Watch. Il n'y a pas, on va dire, de temps en temps, la Garmin pouvait de temps en temps se mettre à jour, mais ils utilisaient un autre mécanisme qui était beaucoup qui marchait de temps à autre en fait. C'était en fonction des mécanismes de tâches de fond d'iOS qui sont assez particuliers. Là, la Garmin est traitée comme une Apple Watch et donc elle peut vraiment à tout moment envoyer des données. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que les données sur votre application seront constamment à jour et l'utilisateur n'aura pas besoin d'attendre. Alors, il y a eu une petite, et j'ai eu des petits problèmes d'utilisation de temps. En fait, la meilleure prise en charge des montres tierces est un phénomène au long cours. Donc, c'est l'histoire de mise à jour en tâche de fond, c'est déjà réglé avec iOS 26.2. Et on va continuer avec iOS 26.3, où là, en théorie, les montres tierces seront à parité avec l'Apple Watch concernant les notifications. On a déjà vu dans les précédentes bêtas de iOS 26.3 un petit champ où on dit oui, alors je veux envoyer mes notifications vers telle montre, mais il y a un petit mais. À partir du moment où vous faites ce choix-là, vous ne pouvez plus envoyer de notifications sur une Apple Watch.
Ah oui, alors, tu peux pas trop avoir, ton Apple Watch la journée et puis ta montre sportive spéciale pour les séances de sport, quoi. en même temps.
Exactement, mais on va dire que normalement, les gens portent une seule montre, rare, non pas deux montres au poignet comme certains testeurs ou genre de trucs.
Pas comme toi, quoi, voilà.
Ouais. Non, mais alors, c'est une évolution qui est malgré tout assez positive pour les utilisateurs. D'ailleurs, je trouve, enfin, à titre personnel, je trouve que même la synchronisation des données en tâche de fond est limite plus importante que les notifications. Enfin, là, comme je l'expliquais tout à l'heure avec le Whoop, c'était vraiment quelque chose de gênant, et puis à la fin... J'en avais presque marre de lancer l'application parce que c'était un process qui devait durer de 20 à 30 secondes, ce qui était quand même franchement long. Tout ça pose une question. Donc, évidemment, pour l'instant, comme tu l'as dit, c'est dans le cadre du DMA. Donc, c'est restreint à l'Union européenne. Alors, la question est de savoir est-ce que d'autres constructeurs vont faire les adaptations pour profiter de ces nouveautés. Je crois que seul Garmin a fait le nécessaire pour le moment. Et comme tu le sais, il y a également des changements qui sont intervenus pour les casques audio, pour avoir un appairage aussi simple que les AirPods. Et à ma connaissance, personne pour l'instant n'a communiqué sur le sujet.
En tout cas, on vient de poser la question à plusieurs constructeurs de montres, donc on verra s'ils nous répondent. Et ça va sûrement, il y aura peut-être des annonces aussi au moment du lancement d'iOS 26.3, puisque là, le système est encore en bêta. Donc, c'est normal que ça soit encore, disons, en préparation, quoi. On va rester dans les montres avec une mésaventure qui est arrivée à une de nos lectrices, qui s'appelle Virginie. En pleine nuit, Virginie a été réveillée par une sensation de chaleur à son poignet. Son Apple Watch SE de première génération était brûlante. Alors, encore ensommeillée, Virginie a retiré sa montre, l'a posée sur sa table de chevet et puis s'est rendormie. Et ce n'est qu'à son réveil qu'elle s'est rendue compte que son poignet, en fait, avait été sévèrement brûlé. Il apparaît que la batterie avait comme fondu et qu'un liquide s'était échappé du boîtier. Alors, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de dormir avec son Apple Watch ?
Tu sais, des fois, dormir, c'est dangereux. Il y en a qui ne se sont jamais réveillés après. Hein.
Non, mais... Ah, c'est vrai. Oui.
C'est la loi des statistiques, malheureusement. Alors, la seule chose qu'on peut noter, c'est vrai que c'est que la montre était un peu ancienne. Je crois qu'elle date de 2021, qu'il n'y avait pas eu de changement de batterie. Donc, ça fait 5 ans, mais c'est vrai que le problème des batteries, on tourne en rond, notamment avec les montres connectées et particulièrement l'Apple Watch. On ne peut pas changer de batterie. Et bah, quand on utilise une montre avec une batterie un petit peu ancienne, on statistiquement, on peut avoir plus... Enfin, la probabilité d'avoir une mauvaise surprise est un peu plus importante. Mais bon, le vrai scandale dans cette affaire, c'est la réponse d'Apple qui est vraiment choquante et qui a dit « Oh bah non, mais vous devez sans doute avoir une allergie avec votre bracelet, je pense que ça doit être ça le problème. » Je sais pas si tu te souviens, on avait évoqué il y a 2-3 semaines le cas de cet utilisateur qui s'était vu remplacer son MacBook Pro qui datait de 2018-2019. Là, la moindre des choses aurait été de remplacer l'Apple Watch sans brancher, parce qu'il y a quand même, enfin, a priori, elle a quand même quelques marques sur son bras qui vont disparaître avec le temps. Mais oui, ça fait jamais plaisir d'avoir genre de choses sur le bras. Elle a été chez une pharmacienne pour avoir des pommades et ce genre de trucs. Enfin, elle a quand même dépensé un peu de sous. Donc, ça aurait été la moindre des choses que Apple se montre conciliante.
On termine le tour de l'actu avec une nouveauté majeure pour Xcode. L'environnement de développement d'Apple s'ouvre à la programmation agentique. Alors, il était déjà possible d'avoir ChatGPT ou Claude dans une barre latérale pour avoir des suggestions. Mais là, on passe à un cap. Puisque les IA peuvent gérer le développement d'une application de A à Z, les agents Codex d'OpenAI ou Claude d'Anthropic peuvent effectuer des recherches dans la documentation, parcourir l'arborescence des fichiers, mettre à jour les réglages d'un projet ou encore vérifier leur travail visuellement. Alors pour beaucoup de développeurs, Xcode se mettait trop lentement à l'IA. Est-ce que cette mise à jour va rabibocher les créateurs d'applications avec Xcode ?
On en a parlé en interne, il y a quand même une belle dose d'hypocrisie chez Apple, hein, qui le même jour diffusait une vidéo pour montrer, alors là c'était par rapport à ses créations sur le service TV, Apple TV, où elle disait « nous on met l'humain au centre de nos choses, l'IA on s'en sert pas ou vraiment à la marge, mais c'est l'humain qui reste au centre du réacteur ». Et là, quelques heures plus tard, regardez Xcode, l'intelligence artificielle va coder pour vous. J'exagère un petit peu, je grossis le trait, mais il y a un peu de ça. Il y a plusieurs sujets. Alors, c'est quelque chose dont j'ai un petit peu discuté avec certains développeurs. En fait, l'un des problèmes de Xcode, et je pense que c'est une bataille que, alors, je sais pas si Apple est en train de la perdre, mais je pense que c'est quelque chose qu'elle aime pas forcément trop. C'est-à-dire que, notamment avec l'émergence des IA génératives, il y avait de plus en plus de développeurs qui utilisaient des éditeurs tierces pour coder. Et qui se servaient de Claude ou d'autres services pour l'aide au code. Et bon, bah là, c'est une réponse par rapport à ça, j'imagine. Et j'imagine qu'Apple n'aime sans doute pas trop le fait que les gens se détachent de Xcode, parce que ça reste quand même, selon Apple, l'outil de référence pour écrire du code, compiler ses applications et faire tout un tas de choses. Bon, on a eu quelques échos. Alors, pour l'instant, d'après ce que j'ai cru comprendre, l'interface n'est pas encore très aboutie. C'est un peu brut de décoffrage. Il y a des petits soucis d'interface. J'ai l'impression que pour le moment, les développeurs avaient un petit peu leurs habitudes, notamment avec VS Code, et ils utilisaient une extension pour solliciter une IA. Bon, j'ai l'impression que Apple est en train de progressivement de se remettre à niveau, mais c'est pas le jour et la nuit, c'est pas une révolution en tout cas.
C'est une révolution à l'échelle de Xcode, parce que Xcode, quand même, ça faisait des années que les développeurs attendaient que les IA s'intègrent à Xcode, ça a mis longtemps à venir, et puis là, t'as enfin quand même le top du top qui s'intègre dans leur application, dans l'application que Apple met à disposition par défaut, quoi.
Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a entendu dire, parce que là, Apple ne communiquait très peu sur le sujet, qu'en interne, évidemment, les développeurs d'Apple, cela faisait quelque temps qu'ils utilisaient, alors notamment, il y a Anthropic qui était cité, pour leurs besoins personnels. Ce qui montre bien que les développeurs d'Apple sont comme les autres, ils ont recours à l'intelligence artificielle. C'est un vrai débat et ça posait des questions. Je sais que Pierre... notamment se demandait, il y a eu ces derniers temps une baisse au niveau de la qualité des dernières mises à jour de Windows 11, et il se demandait si ça avait un lien notamment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. Donc c'est vrai que c'est un vrai débat, et alors, est-ce que l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'impact justement sur les développements d'Apple? Alors ça, il faudrait... que les développeurs d'Apple parlent un peu plus, et malheureusement, ça, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, pour ses propres besoins, Apple n'utilise pas Apple Intelligence, mais des solutions tierces.
Ouais, ça dit beaucoup de choses sur Apple Intelligence, je trouve. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous, on se retrouve la semaine prochaine avec peut-être des nouveaux appareils Apple annoncés ou sûrement des mises à jour aussi disponibles. Salut à tous, à la semaine prochaine !